On commence ce magazine par la revue de presse des Hebdos. Salut Arlette.
Salut à tous et à toutes.
Télérama nous offre comme attendu l'autopsie du 76e Festival de Cannes.
Et moi, je partage avec vous quelques bribes des commentaires de l'équipe cinéma de notre hebdo culturel. Pour la Palme d'Or, Anatomie d'une chute de Justine Triet, la joie totale, éclatante. Celle de voir triompher un grand film, complexe, dense, passionnant. Alors, étonnée, heureuse Justine Triet, mais pas seulement. Après avoir salué la contestation historique de la réforme des retraites, elle a évoqué les menaces que fait peser la marchandisation de la culture sur l'exception culturelle française. Cannes, c'est une belle tribune. Continuant à dérouler le palmarès pour le Grand Prix, The Zone of Interest, le long métrage du Britannique Jonathan Glazer a suscité du débat. Le film observe froidement la vie quotidienne de la famille Huss dans sa maison d'Auschwitz. Conceptuel, dérangeant, pas complètement convaincant pour autant. Ces deux films célèbrent une actrice, l'extraordinaire Sandra Hüller. Elle est au centre de ces deux films. Ce n'est pas elle pourtant qui recevra le prix d'interprétation féminine, mais l'intense Marwe Dizdar dans Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan. Et celui d'interprétation masculine est attribué au charismatique Koji Yakusho pour Perfect Days de Wim Wenders. Reste un gros couac. La distinction de Tran & Hung pour sa réalisation publicitaire de la passion du dodin bouffant, une ode indigeste au patrimoine culinaire tricolore. Télérama regrette que Marco Bellocchio, le grand cinéaste italien, soit reparti bredouille de la croisette une fois de plus. Ce prix de la mise en scène aurait été un minimum pour saluer la puissance esthétique de son film « L'enlèvement ». 8 pages de commentaires à lire si vous adorez le ciné. Et je m'en voudrais de refermer Télérama sans évoquer les deux nécros de la semaine. Jean-Louis Murat et Tina Turner ont quitté la scène. Salut les artistes.
L'Express, à propos de Cannes, donne à lire un article intitulé « Festival de Cannes, Justine Triet ou la Palme d'Or de la bêtise ».
Alors je cite bien sûr. Sous prétexte de jouer Cosette sur la croisette, la réalisatrice française a débité des âneries devant un parterre international samedi dernier. Je crois qu'Éric Scholl, qui signe cette attaque virulente, n'a pas vraiment écouté Justine Triet, ou pas tout compris. Et surtout, si vous me permettez un avis personnel, il fait la démonstration de sa méconnaissance de l'écosystème du cinéma français. Confère la Tribune du Monde, signée en juillet 2019 par 11 organisations professionnelles représentant le cinéma indépendant et 800 professionnels de ce secteur. C'est ce qu'a rappelé Justine Triet dans son intervention. Alors vous pouvez retrouver cette Tribune du Monde sur son site. Mais je reviens à l'Express. Ce qui le caractérise, c'est son côté éclectique, prolifique. Le sommaire de l'Express donne le vertige. Mais retenons le thème du dossier de la semaine, très sérieux, nucléaire, une faillite française, déclinée en 7 chapitres que je vous laisse découvrir.
Le canard enchaîné, et c'est son rôle habituel, gratte là où ça fait mal dans le monde politique français.
À la une du canard, Paciotti de l'auberge, titre Éric Emtaz, et Darmanin est à la manœuvre. Après les retraites, c'est désormais l'immigration qui se retrouve au cœur des marchandages, des négociations. Darmanin, à court de majorité, a entamé les discussions avec le LR, mais, il y a la pesante stratégie de Ciotti qui en fait des tonnes pour exister. Le jeu de surenchère de LR, dont le RN est le premier bénéficiaire, est évidemment du genre glissant, voire même dérapant. Toujours sur la une, le plastique, fabriqué à partir du pétrole, il rapporte gros. Réduire la production? N'y pensez pas. N'empêche, la France se veut très en pointe sur la question. L'utopie est de retour au sommet de l'État. Et puis, le petit buzz de la semaine, avec des civilisations. Macron parle le Retailleau. Alors, pour mémoire, Bruno Retailleau, c'est le sénateur de la Vendée. Il préside le groupe Les Républicains au Sénat et il est aussi membre du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. Dans la mare aux canards, Darmanin et ses marchandages avec le LR ont la vedette. Mais tout de même, ne ratez pas la liste non exhaustive des complots de l'ultra-droite depuis 2017 dans Farandole à la Brune. Et encore l'article « Le renseignement français s'alarme de la décivilisation d'extrême droite, des attentats déjoués contre les communautés juives et musulmanes, 1300 fichés S, ex-policiers et militaires à la manœuvre, afin que nul n'en ignore.
Quant au 1, chaque semaine, il s'empare d'un sujet et l'examine sous toutes les coutures. Cette semaine, essai d'actualité, être maire aujourd'hui.
Eh oui, dimanche, c'est la fête des mères. Éric Fotorino, dans le Zakouski, fait un peu d'histoire et Jochen Gerner dessine une fête qui vient de loin. Pour ceux qui relient cette fête à Pétain, qui l'imposa en 1941, ils rappellent tous les deux que les Grecs et la Rome antique célébraient déjà les mères des dieux et les matrones. L'Amérique, en 1914, imposa le Mother's Day. Et Aristide Briand fit de même en France en 1924. Dont acte. Le 1 analyse la maternité en 2023. Être mère est toujours une aventure unique. Les progrès effectués en matière de diagnostic prénatal et d'obstétrique ne banalisent en rien cet événement. L'adoption, la PMA, les dons d'ovules et d'ovocytes, la possibilité pour les couples homosexuels, femmes et hommes, d'avoir des enfants, toutes ces formes de maternité et de paternité, interrogent l'intensité comme la nécessité vitale pour l'enfant des premiers liens, qui sont aussi les premiers soins avec sa mère et plus largement avec ses parents. Claire Marin, philosophe, signe un article magnifique intitulé « Apprendre à être mère ». Elle constate la présence impérieuse de l'enfant parce qu'elle expose soudainement cette disponibilité absolue du parent et sans doute plus encore de la mère, interroge toutes les subordinations, même douces, que l'on avait tolérées. Pour la première fois, peut-être, surgit ce sentiment que notre existence est nécessaire, vitale. Gisèle Halimi écrivait « La maternité ne doit pas être l'unique horizon. Ce doit être une décision prise en liberté, un engagement réfléchi et lucide. Et quand on n'a pas envie d'enfant, Charlotte de Best, sociologue, travaille sur un non-désir qui dérange, sur celles et ceux qu'on appelle les sans-vol, personnes volontairement sans enfant, sur leur motivation. Pourtant, la pression sociale à concevoir est toujours forte aujourd'hui. Les femmes sans enfants dérangent. Elles brouillent la frontière normative entre ce qui relève du féminin et du masculin. La culture nataliste est encore bien prégnante. Monique Bidlowski, psychiatre et psychanalyste, nous explique ce qui a évolué et ce qui ne change pas dans cette grande aventure humaine. Quant à François Ansermet, psychiatre, il nous révèle que nous sommes à l'aube d'une révolution anthropologique de la maternité. Au cœur de cette révolution, une passion de procréer, mais sans autre. Bonne fête, les mères.
Et après, quand l'enfant grandit, il devient un héritier.
Héritage, en avoir ou pas ? C'est le thème original du dossier ouvert par Courrier International à lire pour mieux mesurer en quoi les successions augmentent la fracture sociale, surtout en Occident, nous explique Claire Carrard. L'un des secrets les plus inavouables de la classe moyenne, pour reprendre l'expression du Guardian, dont la très longue enquête traduite en ouverture de notre dossier de cette semaine, nous entrons dans un moment très particulier, celui d'une transmission massive et déjà en cours du patrimoine de la génération née après la guerre, largement gonflée par les prix de l'immobilier et les valeurs boursières. Alors c'est vrai au Royaume-Uni et le phénomène est identique aux États-Unis. Les baby boomers, explique The New York Times, détiennent la moitié de la richesse nationale. D'ici à 2045, ils devraient léguer à leurs enfants de la génération X, nés entre 1965 et 1980, ou milléniaux, nés après 1980, près de 84 000 milliards de dollars. En France, la part de l'héritage dans la composition du PIB est passée d'environ 4% en 1950 à 15% en 2010, indique le journal britannique Spiked. Des milléniaux ayant reçu des legs ont hérité de plus d'argent que ce que gagnent de nombreux actifs durant toute leur carrière.
Et maintenant, petite minute zodiacale, Arlette. C'est l'horoscope de Rob Bresny.
J'en ai assez de ces gourous qui nous exhortent à faire taire notre ego et à le dissoudre dans la honte. Je soutiens au contraire que nous avons besoin d'un ego sain, fier et puissant pour nourrir notre quête de sens. Tes présages m'ont d'ailleurs conforté dans cette conviction, Gémeaux. Dans cet esprit, je décrète le mois de juin le mois de l'exaltation de l'ego des Gémeaux. Profitez-en pour exhiber sans complexe la beauté extravagante de ton moi. Déployer fièrement tes talents exceptionnels et chérir tes caprices et élans comme autant de trésors uniques. Tu as carte blanche pour parader et te pavaner tout à ton aise.